Hermine Gilquin, chapitre 40. La ferme paraissait inhabitée. Elle n'entendit dans l'escalier et le vestibule que le bruit de son pas léger effleurant les vieilles marches et les vieilles dalles. Elle poussa la porte de la cuisine, ne vit qu'une servante, la vieille Agathe, qui achevait sa besogne dans l'angle de l'âtre en chantonnant une chanson de sa jeunesse. Hermine eut la sensation qu'elle était dans une maison enchantée, où cette vieille femme seule était vivante, cherchait à retrouver dans les cendres le secret du logis. Elle s'éloigna, traversa la cour, le portail était fermé. Il faisait froid à l'ombre, mais le soleil chauffait tout un côté de la cour. Les oiseaux s'étaient rassemblés là pour passer leur dimanche. Poules noires, blanches, rousses, dindons noirs aux caroncules rouges et bleus, pintades aux plumages perlés, oies blanches, canards verdâtres, paons resplendissants de soie et de pierres précieuses, de saphir et d'émeraude, ils étaient tous là, accroupis sur la terre tiède, comme des dévotes autour d'une bouche de chaleur, vivant l'heure de la digestion en attendant l'heure du sommeil. Quand Hermine parut, cet amas de plumes s'agita. Les coqs s'étirèrent sur leurs pattes, lancèrent leurs cris rauques, et toutes les autres voix parlèrent aussi. Glou-glou des dindons, coin-coin des canards, sifflement des oies, appels déchirants des paons et des pintades, auxquels vinrent bientôt se joindre les roucoulements des pigeons, qui se précipitèrent du haut de leur tour et vinrent s'abattre et tourner en se rengorgeant autour d'Hermine. Pyram sortit de sa niche, où il cacha l'eau ce qu'il rongeait, et vint auprès de sa maîtresse, levant vers elle ses yeux d'or, demandant la caresse de sa main frêle. Hermine se pencha vers le bon chien et l'embrassa.
« Tu viendras avec moi demain, »
lui dit-elle à l'oreille. « C'est toi seul que je puis emmener où je vais. Je voudrais bien vous emmener tous, » dit-elle aux autres animaux. Elle se mit à genoux sur le sol, et les oiseaux vinrent vers elle, l'assaillirent, volèrent sur ses genoux, sur ses épaules. Elle les prenait de ses mains délicates, les reposait à terre après un baiser sur leurs plumes.
« Adieu tous, demain je n'aurai pas le temps. »
Elle entra dans les écuries, dans les étables.
« Meuh !»
firent les bœufs et les vaches.
« Bêh !»
gémirent les moutons.
« Hein ?»
interrogèrent les chevaux. Hermine parla à toutes ces bonnes bêtes qui ne lui avaient jamais fait de mal, caressa leurs flancs rebondis et leurs fronts durs d'herbivores, se mira dans leurs yeux de velours. C'était son monde qu'elle quittait, le monde des êtres auxquels elle prêtait ses sentiments. Disait ce quelque chose de tendre et de touchant qu'est un adieu, et desquels elle croyait entendre la plainte d'une réponse. Elle resta un instant dans cette atmosphère chaude, parmi toutes ces bêtes aux têtes tournées vers elle, respirant l'odeur de pelage et de fumier dont elle garderait le souvenir nostalgique. Elle sortit enfin, alla, toujours suivie de Pyram, vers une petite porte verte qui donnait accès au jardin, poussa cette porte, pénétra dans l'enclos. Ça avait été là, autrefois, un endroit de délices, jardin et verger, toutes les fleurs et tous les fruits. Le soleil commençait à baisser, ne franchissait plus la muraille. Tout était morne en ce jour d'hiver. Les allées envahies de feuilles mortes, les arbres aux branches noires, les parterres dévastés par le vent et le froid. Aux branches des rosiers restaient encore quelques roses d'automne, pourries et rouillées. Des chrysanthèmes exhalaient leur odeur amère. Des arbres verts, presque noirs, dressaient leurs formes géométriques et leurs feuillages perpétuellement funèbres. Le lierre des murailles et le buis des allées gardaient aussi leur verdure tenace. Hermine alla s'asseoir sur le banc, d'où son père et sa mère, par les soirs de printemps et d'été, regardaient neiger les fleurs des cerisiers ou mûrir les pêches et les pommes des arbres en espalier. Jamais plus ne reviendraient, parce qu'ils étaient morts, ceux qui s'étaient assis là. et jamais plus elle ne reviendrait, elle qui était vivante, parce que le malheur la chassait de chez elle. Elle fut pendant un moment désespérée par cette idée. Pourquoi s'en aller? Ce jardin abandonné, ravagé par l'hiver, lui faisait l'effet d'un cimetière où elle aurait dû rester. Elle regarda les ifs, les buis, les roses rouillées, tout ce paysage fait pour garder des tombes, et pleura. L'obscur désir de revanche qui était en elle la ranima. Son courage la remit debout. Chapitre 41. Par une autre porte, au fond du jardin, on sortait dans les champs. Hermine ouvrit cette porte, mais resta sur le seuil. Elle se sentait fatiguée, et elle aurait besoin de toutes ses forces le lendemain. Elle se contenta donc de regarder le vaste paysage qui s'étendait devant elle, les terres des Gilquins. Ce paysage d'hiver était nu et splendide. Un océan de terre labourée, dont les sillons se suivaient et se pressaient comme des vagues. Une ligne d'horizon de forme convexe qui indiquait nettement la forme de la planète. Là, les grains avaient germé, le blé avait poussé. Les brises de l'été avaient agité dans tous les sens des champs d'avoine, d'orge, de seigle, de froment, dont le mouvement s'accompagnait d'un indicible murmure. Quelle richesse et quelle beauté dormaient dans cette terre brune, sur laquelle en ce moment sautelaient des bandes de corbeaux croissants. Tout semblait mort, mais tout promettait de revivre. Le cœur de paysanne d'Hermine s'exalta et se navra en même temps. Ce qui était là, sous ses yeux, dans la clarté du soleil d'hiver, c'était le travail et la fortune des siens. Mais qu'est-ce que cela allait devenir, elle partie? Il lui fallut encore faire effort pour s'arracher à sa contemplation et à ses pensées. Pyram la regardait. « Viens, mon chien, » lui dit-elle. Elle referma la porte qui donnait sur les champs, traversa de nouveau le jardin, en donnant aux choses ce dernier regard appuyé et profond qui voudrait s'emparer de tout à jamais. Rouvrit la seconde porte, la referma, traversa la cour en frissonnant un peu du froid. Le jour tombait. Le soleil était maintenant caché par les murs et les bâtiments de la ferme. Tout était gris. Les oiseaux étaient rentrés. Les étables étaient silencieuses. Hermine s'arrêta à la cuisine. Demanda à la servante un bol de lait chaud, qu'elle attendit, et qui lui fut servi sans mot dire. Elle le but, dit qu'elle ne descendrait pas dîner, et remonta dans sa chambre. Il lui sembla de nouveau qu'elle se trouvait seule dans une maison abandonnée depuis longtemps. L'écho de ses pas se prolongeait mystérieusement dans le couloir et dans la cage de l'escalier. Sa chambre lui parut aussi muette et délaissée. Elle laissa entrer Pyram, et la bête se blottit auprès d'elle pendant qu'elle restait assise, songeuse, dans son fauteuil auprès de la fenêtre, attendant la nuit plus noire pour se mettre au lit. Chapitre 42. Le lendemain, qui était le lundi fixé pour son départ, elle fit ses préparatifs. Des préparatifs invisibles. Hermine ne pouvait songer à rien emporter qui aurait trahi son projet. Elle se vêtit comme d'habitude, mit de bons souliers, prit sa mante, l'argent qui lui restait dans la cachette, et pour tout bagage, le petit coffret où elle avait ses souvenirs, des portraits, quelques lettres d'amis, le billet de Jean, les cahiers où elle écrivait ses impressions, son encrier, sa plume. Cette frêle créature surmontait, à cet instant, la fatigue et la souffrance, l'état de douleur physique qui l'obsédait depuis sa course de la veille. Elle était résolue et intrépide comme un être qui a fait le sacrifice de tout et qui va tenter le sort dans une suprême bataille. Lorsqu'elle eut mis son coffret sous son bras et bien ramené sa mante sur elle, Hermine fit un geste d'adieu vers le lit où étaient nés et où étaient morts les Gilquins. Pyram la regardait avec cette physionomie particulière des chiens qui devinent un projet et qui demande s'ils vont y être associés. Il allait et venait autour d'Hermine, levant vers elle ses yeux interrogateurs.
« Oui, promenez !»
répondit-elle en mettant un doigt sur sa bouche. Il gambada silencieusement. Elle descendit, ne rencontra personne, ne vit pas même la petite Zélie, toujours prête à l'accompagner de près ou de loin. Elle s'arrêta au milieu de la cour, regarda autour d'elle, et tout à coup tressaillit. Ses yeux s'étaient portés vers le grenier où le petit Jean était mort. Il lui sembla qu'une voix plaintive s'exhalait dans l'air glacé par la porte ouverte. C'était vrai. À lui seul, elle n'avait pas dit son départ. Une peine enfantine gonfla son cœur. Elle voulut emplir sa vue et sa mémoire une dernière fois de ce lieu tragique où sa destinée s'était jouée, où elle avait perdu l'enjeu de sa vie. Elle monta péniblement les échelons, fut obligée de s'arrêter au milieu de la courte ascension. Elle suffoquait un peu. Enfin, elle fit un effort, retrouva un peu de respiration, parvint en haut, pénétra dans le grenier, revit les murs, le foin, la poulie.
« Adieu, adieu à tout !»
murmura-t-elle. Elle entendit alors dans le silence, non loin d'elle, une respiration rauque, le ronflement d'un dormeur fatigué. Elle voulut fuir, mais non sans regarder autour d'elle, et en se dirigeant vers la porte, elle aperçut un des vieux ouvriers de la ferme, le père Caillère, étendu parmi le foin et faisant un somme. Elle se hâta, entendant Pyram grogner au bas des échelons, mais elle se trouva face à face avec la petite Zélie, qui était l'éclaireur de toute une bande. François Jarry, la servante maîtresse et les domestiques. Tous firent irruption dans le grenier.
« Ah, je t'y prends, vieille saleté !»
lui dit François Jarry.
« Allez, pour ça que tu passes tout ton temps au grenier ? Allez, pour y retrouver le père Caillère ? Voyez-vous ça ? Eh, mais restez-y toute votre vie au grenier, puisqu'il vous fait plaisir à tous deux, et que je te vois plus fiche les pieds à la maison !»
D'un coup de poing, il l'envoya rouler dans le foin auprès du père Caillère. Elle poussa un cri, auquel répondit dans la cour un hurlement de Pyram. Le père Caillère s'était relevé, ne comprenant rien à ce qui lui arrivait, et se frottant les yeux sous les bourrades et les colibés, il était redescendu avec les autres. Naturellement, l'affaire fit son chemin dans les conversations hypocrites de la ferme.
« Oh, l'est-y possible ? » disait-on. « Jarry est un peu brusque, c'est vrai, mais elle est un rude travailleur. »
Et puis, Hermine a été bécontente de le trouver, quand personne ne voulait d'elle. Le père Caillère, montré au doigt après une telle algarade, honteux des sarcasmes décochés sans cesse, des blagues qui l'assaillaient à tout instant, essaya de s'expliquer. Mais le maître n'écouta même pas deux mots de son histoire. Le vieux quitta donc la ferme pour aller se replacer ailleurs. Chapitre 43. Quand Hermine revint à elle, elle ressentait les mêmes douleurs dont elle avait souffert si cruellement la veille, sur la route, en allant à la messe. Des douleurs intolérables qui s'étaient emparées de tout le côté gauche de son corps, de sa poitrine, de son bras, de sa main. Une fièvre intense la brûlait. Elle se tournait et se retournait sur le foin, sans pouvoir trouver une position possible. Elle se leva, se tenant le bras, lourd comme un bras de plomb. Il lui fallut aller et venir à travers le grenier pour tenter de dissiper cette douleur, où il y avait, à la fois, intérieurement, avec de l'engourdissement, la brûlure d'une flamme et la morsure d'une dent cruelle. Elle allait et venait, lentement parfois, puis vite, avec l'allure d'une bête enfermée dans une cage, les traits contractés, la bouche plaintive et grondante, n'ayant plus qu'une idée en tête, qu'il était impossible de vivre ainsi. Elle dut s'arrêter, reprise par une suffocation terrible. Elle s'approcha de l'ouverture du grenier pour se rafraîchir à l'air glacé du dehors. Elle respira mieux, mais les douleurs ne la quittèrent pas. Elle aperçut la traîtresse petite Zélie, faillit l'appeler, puis sa fierté protesta. Elle ferma la porte du grenier, se dit qu'elle mourrait là, ou qu'elle se sauverait si elle retrouvait ses forces. Elle cacha son coffret et son argent sous le foin et attendit. Vers le soir, elle perçut du bruit dans la cour. On lui montait une couchette, une table, de la soupe, une cruche d'eau. Elle ne put manger et but à longs traits. Elle se coucha, se releva 100 fois, marcha encore d'un bout à l'autre du grenier sans pouvoir trouver le repos. Il lui restait un peu d'eau. Avec son mouchoir, elle mouilla de cette eau glacée sa main, son bras, sa poitrine, et connut enfin un répit à ses souffrances. La fatigue eut raison d'elle. Abattue sur le foin, sa douleur apaisée, elle s'endormit. Ne fut réveillée que par un cauchemar, lorsqu'après avoir rêvé paisiblement de Jean, se voyant heureuse avec lui, elle jeta un cri d'angoisse en l'apercevant suspendue aux solives et se balançant, le visage livide, dans la clarté verte du clair de lune. Chapitre 44. Hermine ne quitta plus le grenier, vécut là en séquestrée. L'espoir revenait parfois en elle, quand ses douleurs s'apaisaient sous l'eau glacée. Elle décidait alors qu'elle allait profiter de cette accalmie pour s'enfuir. Mais toujours surgissait quelqu'un pouvant mettre l'interdit sur son entreprise, ou bien l'échelle était retirée. Elle mesurait l'espace qui la séparait du sol, avait l'idée de sauter, puis se disait qu'elle resterait à terre, les jambes brisées. Ainsi, elle put apprendre quelle petite cause joue des rôles décisifs pour précipiter ou empêcher l'avenir. Il n'y a plus qu'un pas à faire, la main va toucher le but marqué, et brusquement, le pied trébuche sur un caillou invisible, la main recule devant un souffle hostile. Il est trop tard. L'occasion qui existait tout à l'heure n'existe plus. La prisonnière eut souvent un compagnon. Pyram s'élança un jour en 2 bonds jusqu'à elle. Il refusa de descendre, montra des crocs terribles à la servante qui voulait le forcer à s'en venir avec elle. Celle-ci, Agathe, la vieille bonne, oubliée là, qui avait connu le père et la mère Gilquin, montait 2 fois par jour sa soupe et sa cruche d'eau à la recluse, faisait sa couchette. Peut-être avait-elle gardé le souvenir des jours anciens, et avait-elle pitié de cette femme fanée et vaincue avant l'âge, qu'elle avait vue petite fille. Toujours est-il que dans la mesure de son humble pouvoir, elle cherchait à alléger son malheur. Elle facilita les rentrées au grenier de Pyram, le détachant lorsqu'il geignait à la chaîne. Quand le mal ne torturait pas trop Hermine, elle s'accommodait de cette vie. Entre le chien qui la regardait comme si elle avait été pour lui tout l'univers, et cette servante qui ne lui disait jamais rien, et chez laquelle elle apercevait une bonté complaisante. Surtout, la pensée de Jean la faisait vivre avec héroïsme et joie cette existence de solitaire et de martyr. Pendant les jours qui se passèrent ainsi, sa sensibilité alla s'exaltant. Elle devint une possédée de l'idée fixe, perdue dans le songe, écrivant parfois, pensant à Jean. Son mari, qui avait voulu la mortifier et la torturer, ne se douta pas que les heures qu'elle vivait là étaient les plus chers instants de sa vie de femme. Il ne se gêna plus, installa définitivement la servante qui avait toute autorité dans la maison et qui fut alors pour tout le monde Madame Jarry. Hermine, elle, était devenue la mère Caillère. Chapitre 45. Un matin, après une nuit d'insomnie, Hermine eut de la peine à se lever, à s'habiller. Elle fut forcée de s'y reprendre à plusieurs fois pour mettre ses bas, ses jupes, pour se laver le visage. Il lui fallut fréquemment s'asseoir, puis s'approcher de la porte pour retrouver sa respiration. Elle eut recours à son remède ordinaire, les compresses d'eau froide. Se trouva comme toujours soulagée, mais elle dut reconnaître que ses forces diminuaient. Elle se pencha vers un petit miroir qui était au fond de son coffret, vit un visage vieilli, ravagé, qu'elle ne reconnaissait pas. Des sillons s'étaient creusés sous ses yeux, de noires cernures de fièvre, et d'autres coupaient ses joues, abaissaient les coins de ses lèvres. Il y avait toujours, pourtant, dans son regard, sa douceur pensive de jeune fille, cette expression profonde et charmante qui la faisait si jolie. La poésie des yeux est celle qui s'en va la dernière. Et sa bouche avait toujours le trait pur qui s'animait délicieusement pour le sourire et pour la parole. Mais cela était perdu dans la chair grise, envahie par la cendre du temps. Il n'y avait plus là-dessous que des étincelles difficiles à raviver. Il y avait encore autre chose, malgré tant de désarroi. Il y avait une pensée qui veillait à travers tout, la pensée de sauver sa maison, son bien, ce qui avait été la vie des siens et sa vie à elle, la pensée d'enlever cela à ce François Jarry, qui était venu camper là en conquérant pour faire sa fortune du malheur d'Hermine. Elle prit son encrier, son papier, écrivit longtemps. Elle avait encore une enveloppe, des timbres. Elle inscrivit l'adresse de M. Philippon, notaire. Il restait maintenant à faire partir la lettre. Qui se chargerait de cela? La petite Zélie, il n'y fallait pas penser. Elle n'avait pas osé revenir auprès d'Hermine après sa dernière mauvaise action. Elle se contentait de regarder le grenier de loin. Ou elle était foncièrement mauvaise, ou elle était terrorisée. Pour Hermine, le résultat était le même. Si la lettre lui était confiée, elle irait la porter à Jarry pour se faire valoir, ou bien elle la détruirait si elle n'osait pas aborder ce féroce. La vieille servante? Peut-être. Pourtant, Agathe était bien débile, ne comprendrait pas, était capable, sans malice aucune, de laisser voir la lettre entre ses mains. Sa bonté machinale se bornait à soigner Hermine comme elle aurait soigné une bête à l'étable. Il y avait en elle de l'habitude, un reste de l'ancien respect pour la demoiselle Gilquin. Enfin, Hermine essaierait de lui expliquer ce qu'elle attendait d'elle. Elle n'allait pas tarder à venir, il était 11 heures du matin. Chapitre 46. Ce fut un hasard très ordinaire qui vint à la place de la vieille servante. Comme Hermine regardait par la lucarne du grenier, elle vit le facteur du village entrer dans la cour, une lettre à la main. Il s'approcha de la cuisine, ouvrit, et ne trouvant personne, revint dans la cour, regarda de tous côtés, fit un mouvement comme pour retourner à la cuisine. Personne ne se montra, ni Jarry, ni Zélie, embusquée sans doute dans quelque coin. La vieille servante, gardienne de la maison, était occupée au cellier ou près des animaux. Prompte comme au jour de sa jeunesse, Hermine comprit qu'il fallait profiter de la circonstance. Elle ouvrit la porte du grenier, appela le facteur. Elle le connaissait bien, et il la connaissait bien aussi. C'était un vieux, le père Moutier, ami du père Gilquin, et il n'était pas entré une fois à la ferme dans ce temps-là, sans avoir à déjeuner, du pain, de la viande froide, un verre de vin pour continuer sa route. Il leva la tête, reconnut Hermine, vint vers l'échelle. « Montez vite, Moutier !» dit-elle d'une voix basse et brève. Il monta. « C'est une lettre pour Monsieur Jarry, » dit-il d'abord. « Bien, vous la poserez sur la fenêtre de la cuisine. » Mais c'est pour autre chose. Voici une lettre que je vous prie de mettre à la poste, pour M. Philippon, le notaire. Bien. Il ouvrit son sac et mit la lettre. Le diable ne l'en retirerait pas, dit-il. Il regarda Hermine de ses yeux finaux de brave homme et ajouta, vous pouvez être tranquille, madame Hermine. Je le suis, mon bon Moutier. « Ça ne va donc pas, madame Hermine. Je vous trouve un petit changé à cette heure. »« Ça ne va guère, en effet. Mais ça ira mieux, j'espère. N'oubliez pas ma lettre et sauvez-vous vite. » Elle lui donna un louis d'or qu'elle avait enveloppé dans du papier, tout en causant avec lui. « Tenez, Moutier, voilà vos étrennes. C'est demain le 1er janvier. Faites un bon repas chez vous, à ma santé.
Merci, madame Hermine, mais j'avais pas besoin de ça pour mettre votre lettre. Allez, mon métier,
ajouta-t-il en descendant les échelons.
Allez vite.
Hermine le suivit des yeux. Il déposa la lettre pour Jarry sur le rebord de la fenêtre de la cuisine, assujettit son sac, tapa son bâton sur le sol, franchit le portail en se retournant vers Hermine, anxieuse et souriante. Il était temps. François Jarry rentrait.
« Il y a une lettre pour vous sur la fenêtre, » dit le père Moutier.
« C'est bon, » dit rudement l'homme.
Le facteur s'éloigna. Hermine se recula, mais sans perdre de vue François Jarry, qui vint prendre sa lettre, une lettre d'affaires quelconque, qu'il lut, mit dans sa poche, au moment où la petite Zélie, se décachant on ne sait d'où, vint vers lui, lui parla à voix basse, toute pâle. Il écarta l'enfant, se précipita vers le portail, prit sa course. Hermine frémit, tomba sur sa couchette, le cœur battant à toute volée dans sa frêle poitrine. François Jarry ne tarda pas à revenir, la fureur sur le visage. Il bondit vers l'échelle, monta.
« À qui as-tu écrit ?»
Il prit Hermine par les poignets, mais n'eut pas d'autre réponse que celle des yeux méprisants et mourants qui s'ouvrirent dans le blême visage.
« À qui ? À qui ? »
répéta-t-il, se demandant s'il n'allait pas écraser cet être qui le narguait de son silence et de sa faiblesse. Elle ne répondit toujours pas. Il dit sa déconvenue malgré lui, en paroles entrecoupées.
« La vieille canaille de facteur, qui n'a rien voulu me dire, je lui aurais arraché son sac. Et toi, à qui as-tu écrit ?»
Hermine referma les yeux, en proie à une joie indicible. Jarry crut qu'elle se trouvait mal, s'enfuit avec un juron, retira l'échelle, envoya un coup de soulier à Pyram, qui gronda, les yeux mauvais, et resta au bas du grenier, les yeux fixés obstinément sur l'ouverture. Chapitre 47. Mais Hermine ne parut pas. Longtemps, elle resta inanimée, brisée par ses péripéties. Lorsqu'elle revint à elle, elle était heureuse et résignée. On avait cru la réduire à l'impuissance, et elle avait tout de même lancé sa vengeance. L'éclair, puis la foudre. Jarry serait vaincu à son tour. Il méritait un châtiment, et il l'aurait par Hermine. Pour elle, elle sentait que c'était fini. L'état singulier où elle se trouvait, d'une faiblesse extraordinaire, d'une lucidité parfaite, lui fut comme un avertissement de sa mort prochaine, et elle s'en réjouit. C'était maintenant le seul bonheur qu'elle pouvait attendre du sort. Elle se traîna vers l'ouverture du grenier, contempla encore une fois la maison où elle était née, essaya de sourire à Pyram. Puis, ses regards errèrent autour d'elle. Ses amoncellements de fourrage, c'était tout ce qu'elle voyait au dernier moment de la vie nourricière de la terre, cette terre qu'elle avait adorée comme une divinité. Elle entendit le mugissement des bœufs dans l'étable, le hennissement d'un cheval, puis, la nuit venue, l'aboi perdu d'un chien, au loin, dans la campagne. Le ciel était bleu et pur, criblé d'étoiles. Subitement, la lune monta dans le silence, emplit le grenier de sa clarté d'argent. Hermine vit distinctement l'endroit où elle allait s'évanouir à jamais. Elle regarda la poulie, et ses yeux se voilèrent encore une fois de larmes. Les murs blanchis à la chaux étaient couleur de sueur. Elle aperçut quelques traces de crayon sur cette muraille éclairée par la lune et se traîna péniblement pour les déchiffrer. Elle n'avait jamais remarqué jusqu'alors ces caractères presque effacés qu'elle voyait si nettement ce soir par une acuité singulière de ses sens et qui semblaient avoir été tracés à l'instant par une main invisible. Elle épela les syllabes. « Mamselle Hermine est la plus belle fille du village
et de tous les autres villages. Puis, plus loin, un cœur dessiné entre ces deux noms, Hermine et Jean. Après si longtemps, lire cela, pensa-t-elle. Trop tard. Quel passé dans le présent! Elle effaça de ses faibles mains ses dernières traces pour détruire à jamais le seul souvenir qui aurait pu rester d'elle. « Pauvre garçon, » dit-elle encore, « c'est demain son anniversaire, l'anniversaire de sa mort, le 1er janvier. Il est mort pour moi. Je peux bien mourir pour lui. » Elle relut alors, à la lumière de la lune, le billet de Jean. « Je m'en vais, parce que Mlle Hermine est trop haute pour moi et qu'elle ne m'aimera jamais. » Elle déchira le papier, ouvrit une lucarne, fit s'envoler les fragments au dehors. Un vent frais s'élevait à ce moment, emporta ce vol de papillons blancs du côté de la mer. Hermine les suivit longtemps, des yeux et de la pensée. Puis, la poitrine secouée de spasmes, la respiration coupée par les étouffements, cette fille de campagne, stoïque et résignée, accepta sa fin, s'étendit sur son humble couche pour attendre la mort. Chapitre 48. Le lendemain, 1er janvier, dans la matinée, des ouvriers de la ferme, pour achever de se mettre en gaieté, montèrent au grenier pour souhaiter la bonne année à la mère Caillère. Hermine était étendue, rigide et froide, sur sa couchette. Des larmes qu'elle n'avait pas eu la force de sécher traçaient des sillons glacés sur son pâle visage, mais sa bouche entr'ouverte souriait au repos éternel. Elle était redevenue la jeune fille d'autrefois, au pur ovale, au visage candide. Les hommes, subitement dégrisés, appelèrent à voix basse François Jarry, qui vint les rejoindre. Il resta comme eux, silencieux et immobile, devant cette petite vierge qui surgissait à la place de la vieille femme bafouée. Entrevit-il, à cette seule minute, l'être que la vie lui avait confié? Nul ne le sut. Mais il fut hébété, frappé de stupeur, pour la première fois déférent, troublé par la mystérieuse et tardive leçon que la mort donne sans cesse aux vivants. Chapitre 49. Tout ne fut pas terminé avec le dernier soupir d'Hermine. Ce 1er janvier se passa avec les démarches nécessaires pour l'enterrement. Le corps d'Hermine fut rapporté dans sa chambre, escorté par les hurlements de douleur de Pyram, auxquels répondirent les cris et les gémissements des écuries, des étables, des volières, comme si le même frisson avait passé sur toute chose. La morte fut veillée par la vieille servante. La petite Zélie vint, de la porte, regarder ce doux visage, si terrible aussi. Le médecin prononça que le décès était dû à une angine de poitrine. Le curé parut, geignant, récita les prières funèbres, partit après avoir serré la main de François Jarry, en prenant une physionomie compatissante. Le service et le convoi furent décidés pour le lendemain, mais les menuisiers et les ensevelisseurs chôment le 1er janvier, et il fallut bien attendre pour la mise en bière au matin des obsèques. François Jarry passa la fin de la journée à fouiller la chambre et le grenier. Il se doutait bien que la vieille canaille de facteur avait dû mettre à la poste une lettre que lui avait confiée Hermine. Pourquoi n'avait-il pas obéi à son mouvement instinctif qui était d'arracher au bonhomme sa boîte? Mais, si violent qu'il fût, Jarry avait en lui du calcul et de la peur. Il avait craint de voir apparaître sur la route les chevaux et les bicornes des gendarmes en tournée. Et sans connaître avec précision les articles du code qui punissent les voies de fait sur un fonctionnaire, il se doutait bien qu'il aurait risqué gros en attaquant et en dépouillant un facteur sur une route. Tout de même, si Hermine n'avait pas eu le temps de confier sa lettre à Moutier. Il accomplit donc fiévreusement ses recherches. Il trouva le coffret, des lettres insignifiantes, les portraits, des fleurettes, des carnets où il essaya de lire des histoires auxquelles il ne comprit rien, ses petites narrations des saisons, qui célébraient pourtant les spectacles habituels aux paysans, le charme des biens de la terre, les changements de beauté de l'éternelle nature, et d'autres écrits encore, des pensées, des confidences qui l'épelaient, bouche béante. Aucun papier d'affaires, rien qui parlât d'intérêt et d'argent. Il refourra toutes ses paperasses et tous ses objets dans le coffret qu'il laissa là et continua ses recherches. Il découvrit un peu d'or, quelques billets de banque, immédiatement enfouis dans le portefeuille qui était toujours dans sa poche, qu'il mettait sous son traversin la nuit. Il fut mieux renseigné le lendemain matin. Chapitre 50. À la première heure, maître Philippon se présentait, accompagné du juge de paix, d'un huissier et d'un troisième personnage. « Monsieur Jarry, voici monsieur le juge de paix, qui vient apposer les scellés pour permettre l'inventaire de la ferme. Et voici monsieur l'huissier et monsieur le gardien des scellés et des biens à liquider. Mais auparavant, je dois vous lire le testament de madame Jarry, née Hermine Gilka. » La colère sauvage envahit l'âme de Jarry, mais il se contint devant les hommes de la loi, si sûrs d'eux-mêmes. Le notaire, vieux et ferme, le regard acéré derrière ses lunettes d'or, le juge de paix, l'huissier, solide, paisible, vêtu de noir comme le notaire. Monsieur Philippon ajouta, « J'ai appris la mort de madame Jarry presque aussitôt que je recevais son testament. Puis-je saluer ce qui reste d'elle ?» On lui ouvrait le passage. Il monta, regarda longuement la femme dont le silence lui disait tant de choses, s'inclina. « Pauvre enfant !» dit le vieux homme, prévenu trop tard et devinant trop tard. Et tout de suite, le tabellion, essuyant ses lunettes un peu embuées, signifia de sa voix d'étude, de sa voix grave, « Monsieur Jarry, je désire vous lire ici même, devant témoin. » Tout le monde était monté. « Le testament d'Hermine Gilquin, femme Jarry. C'est ainsi qu'il est signé. Écrit tout entier de sa main, daté du 31 décembre et parfaitement en règle. Je dois tout vous lire. » Il débuta ainsi. « Au moment de disparaître, et pour me séparer de toute chose, je commence mon testament par mes adieux à la vie. Je remercie le hasard, toutes les circonstances, bonnes ou mauvaises, qui m'ont fait assister au spectacle de la vie. Malgré les douleurs que j'y ai rencontrées, je suis fière de m'être assise au banquet de l'humanité. Adieu donc au soleil, père de la vie. Adieu à la terre, mère de la vie. Adieu à la lune, énigme de ma jeunesse. Adieu aux étoiles, regard de l'espace. Adieu aux nuages, fugitifs comme la vie. Adieu aux forêts, oasis de la vie. Adieu aux champs, nourriciers de la vie. Adieu aux saisons, féerie magnifique de la vie. Adieu à l'océan, miroir des cieux. Adieu aux animaux, serviteurs de la vie. Adieu à la jeunesse, espoir de la vie. Adieu à la vieillesse, science de la vie. Adieu à l'amour, fleur de la vie. Adieu à l'amitié, compagne de la vie. Adieu aux méchants, ignorants de la vie. Adieu à la bonté, douceur de la vie. Adieu aux joies, ombre passagère de la vie. Adieu aux douleurs, conséquences de la vie. Adieu aux malheureux, paria de la vie. Adieu à tout ce que je ne reverrai plus. Salut à la mort, récompense de la vie. Je ne suis plus rien, mais j'ai été. » Maître Philippon s'arrêta. François Jarry crut qu'il avait terminé, et son visage massif et bestial exprima la plus basse satisfaction. C'était là cette ritournelle de litanie, ce que cette folle appelait son testament. Il faillit crier cela tout haut, malgré la présence d'Hermine, de sa forme raidie, de son visage énigmatique. « Je continue, » dit le notaire. Tout le monde se regarda. Maître Philippon reprit sa lecture. « Je pardonne à tout le monde, à tous ceux qui m'ont raillé et insulté, à tous ceux qui m'ont méconnu, à tous ceux qui m'ont trahi. Je pardonne à la petite Zélie son vilain espionnage. » La petite Zélie devint rouge, regarda ses souliers, se cacha derrière les servantes. Maître Philippon apprit un coup d'œil. « Je ne pardonne pas à François Jarry. C'est un méchant homme qui a été mon bourreau, qui m'a martyrisé et séquestré. » Le bourreau essaya de ricaner, mais son ricanement s'arrêta devant le froid et implacable visage d'Hermine, cependant que le notaire lui portait le coup final. « Je lègue tout ce qui me revient de mes biens à la commune où je suis né, pour qu'elle construise une école pour les enfants, un asile pour les pauvres, qu'elle serve une rente viagère de 300 francs à la vieille Olympe, du village de La Roche, une autre rente viagère de 300 francs à Agathe, qui m'a donné les derniers soins, et qu'elle place 1000 francs, dont le capital et les intérêts seront remis à la petite Zélie au jour de sa majorité. Je désire être enterré dans mon jardin, c'est la seule condition que je fasse pour la donation de mes biens. Je suis bien mal de corps, mais saine d'esprit en écrivant ces lignes, que je confie à l'honneur de Maître Philippon pour qu'il assure mes dernières volontés. Fait dans ma maison, le 31 décembre 1901. Signé Hermine Gilquin, femme Jarry. Il y eut, après cette lecture, un silence formidable. Puis cette parole tomba sèchement. « Nous allons procéder à la pose des scellés. » François Jarry flageolait sur ses jambes. « Que va-t-il se passer ? » demanda-t-il en bégayant au notaire. « Vous désirez le savoir, monsieur Jarry. Les biens seront vendus. Votre part vous sera naturellement comptée. »«
Ma part ? Ma part ? Mais le reste ? »
Serez-vous assez riche pour l'acheter ? Il y aura de la concurrence, je vous en avertis. »
Et le notaire asséna à Jarry cette dernière phrase. « D'ailleurs, je suis obligé de communiquer le testament de Madame Jarry au procureur de la République. Il contient une accusation sur laquelle vous aurez à vous expliquer, et qui sera appuyée de témoignages, j'ai quelques raisons de le croire. » Chapitre 51. Pendant les jours qui suivirent l'enterrement, François Jarry erra comme un fou à travers la cour, les écuries, les champs, évitant le jardin où reposait maintenant Hermine, désespéré de ce qu'il allait perdre, cherchant sur qui passer sa fureur, la face incendiée d'alcool. Les gens n'osaient lui parler. Il avait rudoyé Agathe, battu Zélie, et il regardait ceux qu'il rencontrait avec une expression de visage épouvantable. Tous tremblaient, réclamaient le moment où il serait débarrassé de ce terrible maître. Le moment vint plus vite qu'on ne l'espérait. François Jarry, ivre, vociférant, entra un soir dans les étables, frappa de son bâton ses animaux qui ne lui appartenaient déjà plus. Tous s'agitèrent, beuglèrent, hennirent. Un taureau, mal attaché peut-être, rompit son licol, se retourna sur l'homme, le cloua d'un coup de corne contre la porte, s'acharna, fit de son corps une bouillie sanglante. Chapitre 52. La ferme des Gilquins est à vendre, elle attend le printemps pour renaître. Une autre voix jeune pour l'animer, une autre Hermine qui connaîtra peut-être la joie, ou celle qui est partie a connu la douleur.